Je voudrais commencer notre échange, Ariella, en lisant à haute voix la quatrième de couverture de l'ouvrage collectif auquel vous avez participé. Il y en a sûrement plusieurs, mais en tout cas celui-ci s'appelle « L'adaptation en 101 mots ». Il est paru fin 2025. Et là, j'entends pas mal de bruit, je suis désolée, mais si vous pouviez faire un tout petit peu moins de bruit pour la fin. Merci. Donc, en lisant en voix la quatrième de couverture de l'ouvrage collectif auquel vous avez participé, est dirigé par l'équipe de l'ingénieur Franck Boutet, fondateur de l'atelier d'ingénierie de la ville durable. Donc voilà ce qu'il écrit en quatrième de couve. En France, comme dans tous les pays à l'histoire urbaine ancienne et à la croissance démographique faible, environ 80% des bâtiments qui existeront en 2050 existent déjà aujourd'hui, 80%. À Paris, cette proportion atteint même 90 à 95%. Or, combien de ces bâtiments pourront satisfaire aux conditions des futures décennies? Presque aucun. Face au changement climatique, à la pression démographique, à la raréfaction des ressources et aux attentes sociales, la question de l'adaptation devient donc centrale. Comment garantir les conditions de confort et d'habitabilité de demain? On en a parlé tout à l'heure. Comment faire évoluer la ville sans tout reconstruire? Comment transformer, réparer, ajuster, réemployer? Comment adapter en conscience, avec méthode, créativité et parfois urgence? Comment enfin conduire de front stratégie d'adaptation et stratégie d'atténuation? Car on ne pourra pas s'adapter à un monde à plus 7 degrés. 2050 ne se bâtira pas, elle s'adaptera. Donc Ariella, dans cet ouvrage, vous avez choisi de faire un pas de côté, justement, celui dont on parlait ce matin. Si bien sûr vous êtes conscient qu'il est crucial d'adapter la conception et la construction du bâti, vous estimez qu'il est tout aussi essentiel de régénérer l'âme des villes. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce dictionnaire collectif, vous avez choisi d'explorer ce mot. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Alors, souvent, dans les approches écologiques, on oublie complètement la qualité de la ville, le plaisir de la ville. J'utilise souvent ce terme, d'ailleurs j'ai donné ce terme au livre que j'ai fait pour mon Grand Prix, le plaisir de l'urbanisme, parce que généralement l'urbanisme c'est un cauchemar, la ville c'est un problème, et la ville écologique on en parle de façon extrêmement technique, on parle en termes de bâtiment. Or la ville c'est le plaisir d'être ensemble, c'est marcher au calme, c'est faire des découvertes, c'est rencontrer les autres. C'est ce qu'a dit ce matin donc Michel, c'est respirer un air non fétide, c'est que ce soit habitable, qu'on soit au frais, qu'on soit le long d'une rivière. Et aussi un lieu où on n'est pas agressé, verbalement ou physiquement. Donc la ville qui s'adapte, c'est aussi une ville bioclimatique, c'est une ville où il fait bon vivre, et j'ai voulu insister sur le fait que la dimension technique et la dimension environnementale au sens strict du terme ne couvraient pas ce qu'on voulait mettre derrière l'adaptation.
Alors, puisqu'on parle de l'âme des villes, je voudrais qu'on aborde une autre notion sur laquelle vous travaillez depuis 7 ans, hein, m'avez-vous dit, et sur laquelle vous vous apprêtez à capitaliser dans un livre pour le printemps prochain, celle d'urbanisme féministe. Selon vous, en quoi une question de genre, parce qu'on peut se poser la question, en quoi une question de genre peut-elle impacter les villes et leur capacité d'adaptation?
Alors d'abord, il faut savoir que les pratiques des femmes sont beaucoup plus écologiques que les pratiques des hommes. Elles prennent moins la voiture, elles consomment des choses beaucoup moins polluantes, elles assurent le care, et leur place dans la ville n'est pas assurée. Donc l'ouvrage qu'on s'apprête à écrire, et surtout la ville, le travail que je mène depuis 7 ans, montre que la ville n'est pas faite pour les femmes. La ville a été toujours conçue pour les hommes. Elle a été, par exemple, au plan de la mobilité, elle est conçue domicile-travail, en voiture. Les femmes font des parcours extrêmement divers, des multidestinations, et elles prennent des transports en commun non adaptés. Mais aussi, on pourrait parler de la sécurité. Alors, en général, on rentre par la sécurité. Et la sécurité, ça implique des parcours sécurisés, ça implique la surveillance, mais ça implique surtout de créer des lieux favorables à l'épanouissement des femmes. Il faut voir qu'aujourd'hui, par exemple, les femmes n'arrivent plus à faire du jogging dans la ville. Elles sont agressées verbalement. Alors, il y a des villes qui ont anticipé par rapport à la France, d'abord, il y a l'Espagne qui a anticipé, San Sébastien, où des jeunes femmes on fait la carte de la ville interdite, là où les femmes se font agresser. Elles ont été montrées ça au maire, et le maire les a embauchées, il a créé un service de l'égalité à l'apostrophe. Égalité. L'Espagne caracole devant, hein, comme d'ailleurs pour aussi les violences féminines, et on a énormément d'innovations, que ce soit dans la métropole barcelonaise, dans la région valenciennoise, et surtout le Pays Basque. Le Pays Basque a des crédits qui sont consacrés à ça. Toutes les villes ont un service de l'égalité, mais on peut parler de Vienne. Vienne a anticipé depuis 30 ans, ou Umea, ça se prononce Umeå en Suède, qui d'ailleurs aujourd'hui a eu les honneurs de Marie-Claire. C'est pas mal, hein, quand on passe dans Marie-Claire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui le lisent quand ça sort dans des revues spécialisées. Alors c'est déterminant de mieux faire la ville pour les femmes. Utiliser le terme féministe est vraiment un gros mot en France. J'ai eu beaucoup de mal à l'imposer, y compris au sein du club Ville Aménagement dont je fais partie et qui finance l'étude, alors qu'il est largement utilisé en Espagne, en Suède, en Norvège et à Vienne. Ça me paraît important d'insister là-dessus. Alors on m'a dit, mais non, on travaille seulement sur... Pourquoi tu ne fais pas la ville des usages ? Je dis, parce qu'à un moment donné, scientifiquement, tu vois, il faut sélectionner un sujet, travailler là-dessus. On est arrivé au-delà de l'incantation à trouver des démarches porteuses dans beaucoup de pays, la Suisse aussi, et à montrer concrètement ce que ça veut dire. Tout à l'heure, on a vu des bâtiments inclusifs dans deux séquences. Et bien, les bâtiments inclusifs, ça existe. Ça existe à Barcelone, ça existe en France, Villiers-le-Bel, et ça apporte du vivre ensemble, ça apporte aussi de la mise en commun d'un certain nombre d'activités. Ça apporte des crèches, ça apporte des coursives qui permettent aussi de détecter s'il y a des violences familiales. Et tout ça œuvre en faveur de l'écologie. L'écologie, ce n'est pas seulement l'environnement, c'est aussi le social. Et c'est important. Donc voilà, c'est mon combat, j'appelle ça « Oser l'urbanisme féministe ».
J'arrive à le faire. On revient sur l'audace, la boucle est bouclée.
Oui, mais j'arrive à le faire aussi à cause de mon âge. Parce que, et puis aussi à cause de mon parcours, je veux dire, j'ai plus rien à prouver. Et puis si on m'attaque, c'est pas grave.
Grâce à votre parcours et à votre âge, finalement. Oui.
Oui, mais en même temps, je veux dire, il faut accepter d'être attaqué, d'être agressé. C'est pas grave. Et je voulais vous dire, je reste deux minutes là-dessus parce que ça intéresse les élus. C'est les élus qui ont, quand j'ai proposé le sujet au club Ville Aménagement, c'était une levée de bouclier. Et certains ont dit oui, mais nos élus, ça nous intéresse. Johanna Roland veut faire une ville non sexiste. L'ancienne présidente de la métropole de Bordeaux s'est engagée. L'ancienne présidente aussi de Besançon. Et puis, j'ai été contactée par l'équipe d'Emmanuel Grégoire qui voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière. Donc, ça intéresse les élus. Ça veut dire que ça vient de la société civile, qu'il y a une demande sociale et que c'est important qu'on y réponde. Voilà.
Alors, en 2024, vous avez publié avec Guillaume Hébert un ouvrage intitulé « Territoires oubliés, un futur désirable ». Vous expliquez que ces territoires qui ont été oubliés du marché et des aménageurs représentent pas moins de 60% du territoire français. Ils sont aujourd'hui l'objet de prédations, que ce soit pour y installer des panneaux solaires, des installations nucléaires, des data centers dont on parle beaucoup ces derniers temps. Pourquoi, selon vous, ces territoires délaissés, qui sont souvent le lieu d'ailleurs de vote populiste, hein, l'État échouant à développer une vision française où il se reconnaîtrait, pourquoi ces territoires oubliés sont riches d'enseignements et devraient peut-être inspirer des métropoles?
Alors, déjà, l'appellation a été jugée aussi agressive que « ville patiente », dont j'ai fait un livre, et puis « Urbanisme féministe », qui sera le prochain livre. Donc, déjà, ça a énervé. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que la France aide tous ses territoires. Et ça, c'est formidable. C'est un atout de la France. C'est pas vrai partout. Mais est-ce qu'elle les aide de façon adaptée? Ça n'est pas certain. Alors, on a été aussi regarder les voisins. Parce que les Italiens ont créé une stratégie nationale pour les territoires oubliés, les territoires intérieurs, remarquables. Les Espagnols, les Portugais. Moi, je vais toujours voir les autres. Vous savez, je suis pas née en France et je trouve que c'est intéressant d'aller butiner chez les voisins. On apprend beaucoup de choses. Et on peut leur apprendre des choses aussi. Déjà, l'appellation était jugée très, très inacceptable.
Parce que méprisante.
Parce que l'État intervient.
Parce que l'État intervient.
Alors, ce qu'on a voulu démontrer, c'est que les aménageurs étaient absents, parce que les études sont financées par le club Ville Aménagement, les aménageurs. Les aménageurs sont absolument absents. On a voulu leur montrer qu'ils pouvaient créer la commande. Je vous raconterai une anecdote si j'ai le temps là-dessus. Et
Allez-y, faites-le.
Alors, l'anecdote est intéressante parce que à côté de Clermont-Ferrand, il y a une ville remarquable, j'ai oublié son nom, à quelques kilomètres, où Patrick Bouchain, grand prix d'urbanisme, puis un homme très créatif, avait installé la permanence architecturale, comme il fait toujours dans son projet, donc les sept échelles, les sept façons de faire la ville. Et donc, on avait été visiter et il y avait un bâtiment extraordinaire, qui datait du début du siècle et qui faisait l'objet de cette permanence architecturale, la preuve par sept. Et alors, ils occupaient une toute petite partie du bâtiment. Alors, je dis à l'aménageur qui est à Clermont, je lui dis, pourquoi tu n'achètes pas le bâtiment ? Tu achètes le bâtiment et puis tu en fais des logements, tu peux en faire des tas de choses. C'est une merveille, ce truc. Et il me dit, il n'y a pas de marché. Je lui dis, mais tu peux créer le marché. Tu peux créer le marché. Tu n'es pas très loin de Clermont. Tu peux créer des transports à la demande, etc., etc. Et créer du logement pas cher au lieu de construire. C'est pas dans le marché. Donc, si vous voulez, aussi les aménageurs, c'est assez rare qu'ils initient la commande, qu'ils inventent la commande. Or, c'est possible. C'est possible de le faire. En quoi ils sont innovateurs ? Ils sont innovateurs parce qu'ils ont peu de moyens, parce que le maire est accessible et que les initiatives locales se réalisent très rapidement. Alors, je cite un architecte urbaniste que j'aime beaucoup, qui a eu le Grand Prix de l'urbanisme il y a 3 ans, Simon Tessou. Et Simon Tessou, pour moi, c'est... les gens comme Simon Tessou, je les appelle les urbanistes aux pieds nus. Ce sont des gens qui travaillent sur le territoire, qui travaillent avec les élus, qui travaillent avec les habitants, qui inventent les programmes à partir de l'essence du territoire, qui recomposent, qui fabriquent un espace public pas cher, remarquable, et qui arrivent à reconvertir. Simon, par exemple, a reconverti un ancien bâtiment agricole en tiers-lieux. Il y a des tiers-lieux ruraux qui créent des vrais lieux de rencontre. Et donc, il invente aussi l'architecture de la reconversion, qui bien sûr est écologique, et dans la mesure où on le laisse faire. Parce que les architectes des bâtiments de France ont tellement de contraintes sur ces bâtiments que parfois ils n'y arrivent pas. Et qu'ils n'arrivent pas à mettre en œuvre des dispositifs qui seraient climatiquement, disons, positifs, parce qu'ils sont interdits par les questions patrimoniales. D'ailleurs, il y a eu un débat récemment sur Paris. On peut adapter, bien sûr qu'on peut adapter le patrimoine haussmannien, mais on a des obstacles qui sont monstrueux et qui sont inacceptables. Je pense que ça, c'est un point qui devrait nourrir les politiques nationales et dire le patrimoine, parfois, il faut démolir. Alors, je reviens dans les villages. Simon Tessou a essayé de reconvertir les bâtiments parce qu'il dit qu'il faut démolir un peu. Il faut démolir un peu pour que ces bâtiments soient vivables. Eh bien, ils n'y arrivent pas. Or, c'est indispensable. Barcelone l'a fait. Dans les quartiers anciens, ils ont démoli des rues entières pour pouvoir créer des ramblas et rendre habitable le patrimoine qui est là. Donc, je pense que ces territoires oubliés nous montrent une façon de faire très, très différente, très économe, un pied devant l'autre, donner accès à la nature, donner accès aux espaces publics, faire travailler les artisans locaux pour fabriquer, par exemple, la sculpture de l'espace public. Il y a énormément de leçons à en tirer. Et la proximité avec les élus est un truc formidable, parce que ça permet de co-construire. Puis les habitants viennent voir ce qui se fait. Alors, dans ce livre, on a montré à la fois les réalisations qui se faisaient, et on a exposé les politiques nationales. Alors, juste un mot sur le Portugal, par exemple. L'action sur les territoires oubliés au Portugal a été conduite par le ministre en charge de l'économie. Et ça, pour nous, c'était saisissant. Parce qu'il disait, c'est pas possible de laisser sur le carreau autant de gens dans notre territoire. Il faut dynamiser à la fois l'économie et l'écologie. On a des territoires qui brûlent. On a des territoires où la terre n'est plus vivante et c'est inadmissible et c'est problématique économiquement. Moi, quand on a fait le colloque du Club Ville Aménagement, que je faisais ma séquence sur les territoires oubliés, je l'ai fait venir parce que Ce matin, ça a été évoqué, la question économique de l'écologie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y sont sensibles. Pour moi, c'était déterminant qu'un ministre de l'économie s'y intéresse.
Justement, ce qui est essentiel pour vous en termes d'adaptation des villes, on l'a bien compris, c'est d'agir sur le non-construit. On a parlé de l'âme des villes, de l'urbanisme féministe. D'où ma prochaine question. Alors, quelle est votre position ou vos propositions peut-être concernant notre sous-sol? On l'a évoqué un petit peu ce matin avec Laurence sur le sol, le foncier en fait, qu'on peut en faire, le sol vivant. Plus largement sur la biodiversité et le métabolisme urbain. Le métabolisme urbain, pour rappel, hein, ce terme a été développé par la chercheuse Sabine Barle, qui était Grand Prix de l'urbanisme 2025 et dont vous avez réalisé le livre et que vous avez convié à votre dernier entretien 5 à 7. Pour rappel, voilà comment elle définit, Sabine Barle, ce terme issu de la biologie. Quand on parle de métabolisme urbain, on veut mettre l'accent sur le fait que les sociétés humaines et urbaines ont une base matérielle et que leur relation avec l'environnement se traduit physiquement par des échanges d'énergie et de matière. On l'a déjà évoqué effectivement ce matin. Dans ces flux, il y a tout ce qui rentre, eau, matériaux de construction, aliments, produits agricoles, énergie fossile, ce qui reste, bâtiments, infrastructures, et ce qui sort, émissions atmosphériques, déchets et rejets dans l'eau. Ces rejets sont liés à ce que l'on a consommé. C'est une façon d'observer la ville à travers les échanges de flux, de stocks d'énergie et de matière nécessaires à son fonctionnement. Alors, Ariella, justement, où en est de votre réflexion sur ce point précis?
Alors, moi, je n'ai pas de proposition sur les sous-sols. Hein. Tout à l'heure, je parlais du défi de la connaissance. Moi, je pense lire beaucoup. Je lis la grande presse et je lis énormément de livres de chercheurs et je lis beaucoup de livres professionnels. Et on découvre tout le temps des choses, en permanence. La démarche présentée par Sabine Barle, qui lui a valu le Grand Prix, je la connaissais sans vraiment la connaître. Récemment, on a auditionné Marc-André Sellos, qui a écrit un livre magnifique, tout petit comme ça, qui coûte 7 euros, qui est la biodiversité comme un humanisme. Et ben, nous, il nous fait découvrir des choses que je ne connaissais pas du tout, alors que j'ai consacré ma vie à la question urbaine et écologique. Donc déjà, ça, je trouve que c'est déterminant et ça nous amène à modifier sensiblement notre façon de travailler et ça devrait faire évoluer les politiques publiques. Donc Sabine Barle, déjà, au travers de son travail sur la question du métabolisme urbain, nous démontre que les solutions écologiques, elles sont loin de résider entièrement dans la décarbonation. Moi, je trouve qu'il y a un énorme problème. Parce que tout est centré, toutes les politiques françaises, les politiques européennes, les financements sont centrés sur la décarbonation. Or, elles, comme Marc-André Sellos, nous disent ce qui se passe dans le sous-sol est produit du CO2 infiniment plus que tout le reste. Et on s'en occupe
produit
pas.
Produit du CO2 ou le stock.
Oui, c'est ça. Et puis, je cite aussi François Gémen, que ça a l'air évident, mais je veux dire que c'est important de dire des choses de façon très simple. François Gémen aussi, avec qui j'ai pas mal travaillé, qui est un des rédacteurs du GIEC, et qui a cette capacité aussi à se faire comprendre de gens qui connaissent rien à rien. Il nous a expliqué quelque chose de très simple, que je crois que beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est que le CO2, c'est un stock, c'est pas un flux. Et donc, ça ne peut pas se réduire. Ça a été dit ce matin. Hein. Pas se réduire. C'est-à-dire que même si, par exemple, la question de la pollution, si imaginons qu'on enlève toutes les sources de pollution dans une ville, on retrouve un état parfait. Il n'y a pas de problème. C'est un flux. Donc là, c'est un stock. Ça veut dire qu'on ne peut pas le réduire. Enfin, il faut des milliers d'années pour réduire. Donc tout ce qu'on ne rajoute pas, c'est bien. Tout ce qu'on évite de rajouter. Ça a l'air très bête, ce que je vous dis. Mais je vous assure que moi, je ne l'avais pas compris. Comme je n'avais pas compris que la question de la biodiversité était irréversible. On nous dit souvent que c'est réversible, ce n'est pas réversible.
Ça dépend de quoi on parle, mais
les espèces qui ont disparu, on peut pas les ramener.
Une fois qu'elles sont totalement disparues, oui. Si elles sont affaiblies, rien peut les faire repartir. Mais si elle a disparu,
c'est moins catastrophique que le CO2, c'est-à-dire que c'est on peut agir sur la biodiversité, c'est vrai. Sauf qu'il dit, par exemple, vous les détruisez, si vous remettez des, il faut quand même 60 ans pour qu'elles fonctionnent. Voilà. Donc, et il défend, alors je reviendrai sur Sabine, il défend une idée que je trouve très forte et à laquelle je n'étais pas sensible. Il dit, ce qui est étrange, c'est qu'il y a des lois pour protéger le patrimoine bâti. Il dit, mais le patrimoine bâti, on peut le reconstruire. Mais il n'y a rien pour défendre le patrimoine biodiversité alors qu'on ne peut pas le reconstituer. Et ça, pour moi, ça, c'est un choc. C'est important que les uns et les autres, on soit capable de recevoir ces chocs et ces informations qui devraient changer les métiers, qui devraient nous changer les métiers. Alors, ce que Sabine dit aussi, qui est essentiel, c'est que si on veut rendre un territoire écologique, c'est ce que j'appelle... Enfin, moi, je préfère utiliser ce terme quand même. Rendre un territoire écologique, il faut trouver la bonne échelle. Et elle a fait des prestations pour un certain nombre de territoires et elle en démontre que la bonne échelle n'est jamais la bonne échelle, l'échelle administrative. Elle est l'échelle du métabolisme urbain, c'est-à-dire les échanges de stocks. Elle a fait un livre extraordinaire dans le cadre du défunt POPSU, malheureusement, le programme d'observation des villes, le JPPO, que l'État vient de détruire d'une façon scandaleuse. Elle fait un livre sur Lille et c'est incroyable parce qu'elle démontre que Lille, les échanges entre Lille et le reste du territoire vont jusqu'à l'Amérique latine. Donc, comment on travaille sur le métabolisme urbain ? Elle dit qu'il y a de plus en plus de spécialistes qui savent aider les collectivités à travailler à la bonne échelle. Elle a fait un boulot extraordinaire avec des collègues sur le bassin de Seine où elle procède par scénario. Donc il y a le scénario du laisser-faire, il y a le scénario jusqu'au boutiste qui amène à un changement total, un peu comme disait Michel ce matin, un changement de mode de vie, un changement de production, mais qui est jouable et viable et économiquement faisable. Et puis il y a un scénario entre les deux, apparemment ça continue à progresser. Alors je pense que c'est très important qu'on s'imprègne de ces notions et qu'on puisse les communiquer très facilement. Moi j'ai fait une interview de Sabine de 2 minutes 30, où elle explique, un, c'est quoi le métabolisme urbain ? Deux, qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien ? Et trois, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et bien ça, il faudrait le diffuser dans toutes les écoles, quoi, parce qu'elle est très claire, et il faut qu'on travaille là-dessus. Et on n'a pas le savoir, on n'a pas la commande publique, et on n'a pas les politiques publiques pour le faire.
Quand on parle, justement, quand elle parle de métabolisme urbain, Sabine Barle, elle parle aussi de sobriété choisie, un terme qu'on a effectivement beaucoup employé ce matin et je crois dans la conférence tout à l'heure avec Victor, une sobriété qui est souvent mal accueillie par les milieux économiques. Écologie et économie sont d'ailleurs quasi systématiquement opposées dans la presse, dans les arènes politiques, l'un serait l'antithèse de l'autre. On ne pourrait pas être écolo et prospère. Tout simplement, qu'en pensez-vous ? Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus ? Économie, écologie,
Il n'y a pas longtemps, j'ai organisé un événement qui s'appelait « Sans écologie, pas de business ». Là aussi, on m'a contesté le terme. Mais je voulais vraiment rentrer dans le business et pas seulement l'économie. Parce qu'au nom du business, on sacrifie l'économie et on parle aussi d'écologie punitive. Mais l'écologie punitive, c'est pas l'écologie punitive, c'est ce qu'on vit aujourd'hui et qui est destructeur de l'économie. Alors, j'étais tombée dans le monde sur... Le Monde est une source incroyable d'informations. Moi, je recommande à tout le monde de lire la presse, parce qu'on découvre des choses qui ne sont pas encore dans le grand public. Alors, il y a des chercheurs américains, Adrien Bilal et Diego Kanzig, qui ont publié dans le National Bureau of Economic Research. Ils ont des chiffres. Alors, il y a plein. Moi, j'ai eu accès à la recherche et... L'inaction climatique risque de coûter beaucoup plus cher que prévu. Ils disent que chaque degré de plus coûterait, en termes de PIB, un point de PIB. Au-dessus de 30 degrés, la productivité baisse. Les assureurs reculent devant l'obligation d'assurer les territoires en danger. On l'a vu tout à l'heure dans la séquence qui était très très bien dans la petite salle. Sans oublier que les plus démunis subissent majoritairement les conséquences de cet état de fait. Mais ça ne vient pas que de là. L'université d'Exeter, dont le Guardian a témoigné, dit que l'économie globale perdrait 50 à 70% entre 2070 et 2090 à cause des chocs climatiques, en tablant seulement sur une augmentation du climat de 3 degrés. Et donc, ils anticipent 4 milliards de morts climatiques autour de 2050, sans compter la fragmentation sociale et politique, etc., et sans compter les migrations. Parce que les migrations vont être massives, on ne saura pas se battre. On peut citer, je vais m'arrêter là, Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, qui oppose liberté de polluer, liberté de vivre de ceux qui sont pollués. Et donc, là, j'avais organisé un événement avec Magali Talandier, j'ai un trou de mémoire, peu importe. On a démontré que le coût de l'inaction était monstrueux. Le problème, c'est que ça ne fait pas réagir. ça ne fait pas réagir. On le sait, et on le voit aujourd'hui quand même. La mortalité, paraît-il, avec la canicule est augmentée de 70%. J'avais lu dans 70% par rapport à l'année précédente. Les pertes économiques sont monstrueuses, les gens ne peuvent pas travailler. Et ce qui est bizarre, c'est que ça n'entraîne pas des décisions de gens qui s'intéressent à l'économie. Pour moi, ça reste un mystère. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est très, très important qu'on arrive à communiquer simplement sur cette question. Et encore une fois, alerter les politiques. Comment faire ? Ils le savent. Ils le savent. J'ai du mal à être positive, mais je trouvais intéressant de rentrer par l'économie. Et ça rejoint la position du Portugal. Si on laisse les gens sur le carreau, y a une perte économique majeure pour le pays.
Alors justement, on va parler de politique dans la prochaine question. En mentionnant il y a quelques minutes les territoires oubliés, vous m'avez fait penser à Saint-Firmin. Saint-Firmin, c'est ce petit village fictif de Normandie où se déroule l'intrigue d'Aqua, le dernier livre de Victor Koenig, que peut-être certains d'entre vous ont lu. Donc selon vous, ce livre ouvre des pistes fécondes dont devraient justement s'inspirer les politiques écologiques. En bref résumé, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, Aqua raconte l'histoire d'un village, en l'occurrence donc Saint-Firmin, qui jusque-là vivait tranquillement avec sa source d'eau potable, et soudainement il est confronté au manque d'eau parce qu'il a refusé d'entrer dans le dispositif intercommunal qui le rapprochait de la commune d'à côté, où ils ne s'entendent pas depuis des lustres et que c'est compliqué. Donc Maria, l'épicière, se fait élire maire, d'origine roumaine, pour tenter de résoudre le problème. Elle cherche à s'inspirer d'une prix Nobel de l'économie qui a écrit sur la gouvernance des communs. Malheureusement, elle échoue à mobiliser les habitants, elle n'arrive pas à faire passer les messages pourtant qu'elle connaît. Et c'est finalement Martin, un énarque parisien qui avait échoué à la première élection, bref, qui se réapproprie le livre et parvient, lui, à établir une gouvernance partagée en faisant émerger les solutions par la société civile elle-même. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ce récit, Ariella, et que nous apprend-il ?
Déjà, j'adore tout ce qu'il écrit Koenig. J'avoue que Humus, moi, ça m'a bouleversé que je ne connaissais pas le rôle des vers de terre. Depuis, je fais très attention. Parce que je trouve, souvent, j'écris des notes de lecture pour la revue Urbanisme à partir de romans ou de séries dystopiques. Comme, je ne sais pas si vous avez vu La Palma, mais c'est extraordinaire, la série dystopique norvégienne qui montre l'incapacité des pouvoirs publics à prendre une décision. On leur dit c'est une catastrophe, il va y avoir un tsunami. Ah bon, quelle est la certitude ? 90%, ce n'est pas assez 90%. On est dans cette situation. Donc je trouve que le fait de passer par la fiction, c'est formidable et il le fait très bien. Donc d'abord, j'ai beaucoup aimé le livre parce que moi, j'aime bien les territoires oubliés, j'aime bien les villages et je trouve qu'il s'y passe des choses formidables. Toute la société, elle est représentée dans ce village et il le raconte très, très bien. Il raconte aussi donc, comment les gens s'opposent et pourquoi ils s'opposent quand la décision vient d'en haut. Alors, on dévoile la fin, non ? C'est intéressant.
Oui, désolé, mais si on parle de la fin, désolé.
C'est qu'à la fin, Martin, qui avait loupé l'élection, puis qui revient, et qui est en fait le neveu de l'agriculteur qui pollue la source. Et qui la retient, et qui ne veut rien changer, et qui est très puissant. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le contraire de ce que notre monde professionnel fait. C'est-à-dire que notre monde professionnel dit... On va former les habitants. Voilà, on va leur expliquer. On va former les habitants. Là, pas du tout. Ils se contentent d'expliquer la situation. C'est-à-dire que bientôt, il va falloir évacuer le village parce qu'en fait, on tient 3 jours sans eau. De là, ce n'est pas possible, on meurt. Donc, comme on ne peut pas gérer cette affaire de la source, il va falloir évacuer. Et il explique les données. Et après, la population, qu'est-ce qu'on fait ? Il ne répond pas. C'est ça le truc, c'est qu'il ne répond pas. Et les habitants discutent entre eux. Et finalement, ils arrivent à faire en sorte de mettre en cause l'agriculteur, de l'obliger à changer ses méthodes, mais c'est eux qui le décident et c'est eux qui trouvent la solution. Et donc c'est la prix Nobel d'économie Ostrom qui explique ça dans Governing the Commons. Ça m'a beaucoup, beaucoup secoué parce que j'ai fait un billet pour Très Urbain, qui est une revue d'urbanisme, parce que j'ai rapproché ça des élections municipales, parce que ce qui m'a beaucoup frappé quand même, c'est que pour moi, les élus qui faisaient le travail le mieux au sens, on l'entend nous, de l'adaptation, de la qualité de la ville, de la qualité de vie, elles se retrouvent avec 35% au premier tour. La maire de Rennes, c'est inimaginable, la maire de Nantes. Et Nice, on peut détester Estrosi, mais quand même, la transformation de la ville est spectaculaire. Grégory Doucet, 35%. Après, il a eu beaucoup plus. Là, on s'est dit, mais comment on fait ? Comment on fait ? Comment on fait pour que ce soit la population qui porte ces sujets ? Je crois qu'on n'y arrivera pas autrement. On n'y arrivera pas autrement. Et comment y arriver ? Ce livre m'ouvre des perspectives. Je me dis, le type de participation que nous menons à la française, un peu réglo, on réunit les habitants qui veulent bien venir, et après on est OK avec la loi, ça ne marche pas. Moi, ma fille, elle fait ce type de métier dans la belle friche. Mais j'ai rencontré quelqu'un ici qui fait ce métier de participation et qui invente des méthodes pour que les habitants se sentent concernés, pour que ils puissent, eux, trouver la solution, ou alors qu'ils arrivent à évaluer les décisions qu'on leur propose. Moi, j'habite à côté de Cagnes-sur-Mer, qui est une ville qui a été extrêmement bien pilotée par un maire de droite assez écolo, qui a rendu le bord de mer magnifique, gratuit, donc il y a des usages incroyables. C'est Alfred Péter, paysagiste, qui a fait cet aménagement. Bon, il a fait des choses absolument formidables. Il saute au premier tour, contre, allez, je vais y aller quand même, parce qu'il paraît que ça énerve certaines personnes, mais je lui ai dit, c'était le cas, enfin, c'est factuel. Il a sauté dès le premier tour contre un jeune candidat RN qui proposait, de mettre plus de stationnement. Alors ça posera des problèmes, parce que pour l'instant, le bord de mer, il est extraordinairement vivant. Deux, de ne pas faire venir le tramway de Nice. Voir comment ça circule, c'est très compliqué quand même les Alpes-Maritimes, parce que c'est un littoral super étroit, hein. Donc tout est saturé, et puis une garderie pour les chiens, voilà, il a gagné comme ça. Alors moi je me dis, s'il fallait discuter avec les habitants, ok, vous voulez plus de stationnement, alors on les met où, et du coup vous ne pouvez pas utiliser le bord de mer comme vous l'utilisez, il faudrait décliner. Vous ne voulez pas le tram ? Est-ce que vous comprenez que ne pas avoir le tram, ça veut dire ne pas pouvoir aller à Nice ou à l'aéroport pour 1 euro ? Et prendre votre voiture que vous ne savez pas où la garer, etc. etc. Donc, je n'ai pas les solutions. Mais je suis sûre qu'il faut qu'on progresse dans ce domaine-là. Parce que si on n'a pas, si notre sujet n'est pas porté par l'ensemble des Français, on n'y arrivera pas. J'ai été auditionnée dans le cadre de Nantes 2030, proposé par Johanna Roland. Et ma conclusion, c'était... Si Johanna Roland prend toutes les décisions qu'elle doit prendre, elle ne sera pas réélue. Ça, c'est sûr, sûr et certain. Parce qu'il y a des décisions très difficiles à prendre. Michel a brossé un tableau de tout ce qu'il fallait faire évoluer. Mais un élu qui oserait dire ça, il est balayé dans la seconde. Elle n'aurait pas 35%, elle aurait 5%.
Mais justement, alors on a des politiques qui essayent de faire des choses, mais qui ne sont pas payées pour ça, finalement. Mais qu'est-ce qui manque à l'écologie politique, finalement ? Elle est encore frileuse ? Est-ce que les élus manquent d'audace ? Alors, ce n'est pas le cas de Johanna Roland, parce qu'elle a de l'audace. Ont-ils peur de se tromper ? Est-ce que c'est le jeu du lobby, du pouvoir économique ? Voilà. C'est quoi ce frein ?
Bon, d'abord, moi, j'ai énormément de respect pour les élus locaux. Je trouve qu'ils donnent beaucoup de leur temps et démolir les élus locaux, c'est vraiment, vraiment pas de mise. Hein, parce que beaucoup d'entre eux, quand même, font un super travail, que ce soit des villes de droite ou de gauche. Hein. Je cite Toulouse à gauche, Toulouse qui est de droite, qui a fait une traversée verte de tout son territoire. Donc, les élus locaux, ils mouillent la chemise. Ils font beaucoup de choses. Ils ne sont pas accompagnés, quand même, par les politiques nationales du tout. Tous les élus ne prennent pas les bonnes décisions. Après, il y a aussi un problème énorme, c'est qu'on parle surtout des villes, or c'est l'ensemble du territoire qui est concerné, et pas que les villes. Moi, je dis toujours, il manque un projet France, vous voyez, un projet France. Quelle France je veux être ? Est-ce que vous avez déjà entendu un gouvernement de gauche ou de droite dire « voilà la France que je veux » ? Jamais. Moi, je travaillais sur le projet urbain. En France, on projet urbain, opération d'urbanisme, et c'est ridicule. Les anglo-saxons, ils parlent de vision. Quelle ville je veux être ? Donc, on a besoin de savoir quelle ville on veut être, quelle France on veut être, et lancer ce débat, avoir un vrai débat national. Est-ce qu'on veut une France concentrée sur les métropoles qui étouffent, ou est-ce qu'on fait une France décentralisée, on laisse les gens habiter dans les villages, on leur donne les conditions, ils utilisent des voitures électriques, parce que c'est Jean Viard qui dit ça, que c'est beaucoup plus adapté à la campagne qu'à la ville, ce qui est vrai. Donc, donnons la chance aux gens de rester là où ils sont, pas densifier le territoire, et d'avoir une vision de quel territoire on veut. C'est l'os, il dit qu'il faut protéger 60% du territoire, il a sûrement raison, si on veut régénérer la biodiversité. Ce qui manque, c'est ça, c'est une vision nationale, un engagement. Moi, je crois beaucoup au bottom-up. J'ai travaillé pour les services de l'État, mais j'ai toujours pensé, et ça a été mon métier, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire remonter les expériences du terrain, qu'elles soient françaises ou européennes, pour nourrir les politiques nationales. Ce n'est pas le contraire. Parce que les élus nationaux, ils ne connaissent rien au territoire. Absolument rien. Il faut qu'ils écoutent les élus locaux. Il faudrait peut-être un gouvernement des villes. Peut-être.
Merci beaucoup, Ariella. On est dans notre temps. C'est très bien. Je suis ravie. Je vous propose d'applaudir Ariella pour cet échange conclusif et cette ouverture de vision. Et là, on va rallumer un petit peu la salle. Et est-ce que vous avez votre vision à partager? Une question pour Ariella. Vous avez la parole. Est-ce que j'ai des bras qui se lèvent ou pas? Ça y est, je vous sens un peu endormie. Peut-être parce qu'on a arrêté la clim, en fait, c'est ça? Vous avez un peu chaud?
S'il n'y a pas de question, moi, j'ai fait tout à l'heure. Citer une des expériences qui m'a le plus séduite et sur laquelle, avec le regretté Jean-Louis Cohen, on avait fait, bon, à l'époque je faisais ce qu'on appelait les ateliers projets urbains, c'est-à-dire que c'est des plongées dans des villes où on fait des visites et on écoute les acteurs de cette ville et puis on fait un livre. Voilà. Là on avait une vision, une vraie vision. Bloomberg savait quel New York il voulait faire à la grande échelle. Et ce qu'il a fait, qui est extraordinaire, c'est Plan YC. Plan YC, c'est un document qui est une sorte de charte élaborée avec les habitants, avec les professionnels, sur différents sujets. L'énergie, la nature, l'écologie, l'économie, le plaisir de la ville, les espaces publics, l'eau, etc. Et de ça a émergé une sorte de charte. Et cette charte, Plan YC, était réactualisée régulièrement, elle était alimentée aussi par des exemples. Donc, c'est la question que je posais à Victor tout à l'heure, c'est-à-dire tu as des tas d'exemples, mais là, ils rentrent dans une stratégie, les exemples, pour montrer. Ces différents éléments de la charte étaient accompagnés d'un programme d'action. 100 000 arbres, on va planter 100 000 arbres. Voilà. Des déductions fiscales pour obtenir qu'une majorité de toits plats deviennent soit des toits solaires, soit agricoles. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Donc, pour moi, ça, c'est exemplaire. Ça veut dire, là, on a un élu qui, en plus, délègue à aux personnes qu'il a mis en charge, qui peuvent être chargées de l'urbanisme, des espaces verts ou autres. Il leur délègue complètement la responsabilité. Et ça, c'est formidable. La directrice de l'urbanisme a été très violemment attaquée par les promoteurs. Et il a écrit dans les journaux, moi je lui fais entièrement confiance, elle fait ça pour le bien de New York, et vous verrez que vous gagnerez plus d'argent si vous l'écoutez. Donc, elle a totale liberté d'agir. Voilà, pour moi, ça c'est formidable. Donc c'est intéressant pour nous d'avoir des expériences à la bonne échelle, et pas seulement les petits bottom-up, les petites expériences, pour pouvoir nous en inspirer, parce que ça a existé, ça peut exister.
Eh bien, les expériences et les exemples, j'ose espérer qu'ils vont venir de vous tous, mais ça, je suis sûre, on verra ça dans la Biennale 2028, peut-être, les exemples qui ont fleuri, qui ont été cultivés, puisqu'on était sur cette thématique. Bon, ben voilà, ça y est, merci Ariella. La journée, vous pouvez rester là pour le temps de qu'on finisse, restez sur scène, Ariella. La journée est passée vite, très vite, trop vite, un peu comme le changement climatique, voilà. L'important, c'est que nous ayons employé ce temps à parler adaptation, car quand on voit ce qui se passe dans le monde chaque jour, ces catastrophes climatiques à répétition, quand on voit, c'est mon petit coup de gueule à moi, ces êtres humains qui, excusez-moi l'expression, mais s'en prennent plein la gueule, parce que leur pays n'est tout simplement pas au bon endroit sur la carte, ou parce qu'ils ne disposent pas des capacités financières ou de gouvernance qui leur permettraient de s'adapter, eh bien, quand on voit tout ça, on se dit que nous, ne serait-ce qu'envers eux, par respect pour eux, on a un peu le devoir de s'adapter, parce que nous en avons encore la possibilité, les moyens, l'envie, j'espère qu'elle est là, et c'est aussi pour ça que vous êtes là. Puisque ça ne coûte pas plus cher, faisons-le avec le sourire, car la ville de demain sera plus juste, plus résiliente, plus joyeuse, ou elle ne sera pas.